France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Véronique Rissoult est là pour Back Brut Consulting, Adrien Brachet pour le Marianne, Alexandra Saviana pour l'Express et l'économiste Philippe Dessertine qui nous apporte ses lumières aussi sur ce deuxième sujet. La PDG du groupe immobilier Nexity a donc confirmé ce matin sur France Info la suppression de 502 postes. 400 personnes avaient déjà quitté l'entreprise avant même ce plan. La cause, dit-elle et dit le groupe, c'est une crise conjoncturelle et aussi une défaillance du gouvernement. Maintenant, il faut agir, dit Véronique Bédague.
Le gouvernement a au fond, et les banques aussi, se sont mis à soutenir davantage les primo-accédants. Il y a eu des efforts faits sur le prêt à taux zéro. Hein, et maintenant, ce qu'il faut vraiment faire, c'est ramener les investisseurs dans le secteur du logement. Elisabeth Borne, en sortie du Conseil national de refondation logement, avait dit...
Le fameux CNR avait dit,
dès la prochaine loi de finances, on prendra des dispositions pour rendre plus attractif l'investissement en logement. Ça n'a pas été fait. Il faut travailler la fiscalité. Quand vous êtes investisseur particulier, vous avez l'impôt sur le revenu. Vous avez une taxe foncière. Ça n'existe pas sur les autres. Et une taxe foncière, vous le voyez bien, qui reste la seule ressource fiscale des collectivités et qui augmente beaucoup tous les ans. Et puis certains aussi, des investisseurs, ont de l'IFI. Et tout ça, ça rend fiscalement, au fond, l'investissement en logement très défavorisé par rapport aux autres investissements.
Philippe Dessertine, est-ce que le marché du logement neuf est bloqué aujourd'hui dans cette pénurie de logements et ses prix très élevés ?
Donc là, en fait, on a bien un lien entre les deux sujets, hein, puisque le vrai problème que rencontre l'ensemble, d'ailleurs, du logement, la construction du point de vue mondial est en difficulté, c'est la problématique de la hausse des taux. C'est l'augmentation des taux d'intérêt qui rend extrêmement coûteux, on va dire, l'accès au logement et le resserrement du crédit a fait qu'un certain nombre de personnes qui voudraient acheter leur logement, notamment les jeunes, ne peuvent plus le faire. Donc vous avez vraiment une restriction très très forte de la demande qui s'est traduite en ce qui concerne Nexity comme beaucoup d'autres promoteurs immobiliers sur le logement neuf par une crise en France comme on n'a jamais vu. On n'a jamais eu un effondrement pareil et donc en effet on est avec des licenciements mais on est avec des choses qui sont aussi peut-être moins apparentes dans l'information, mais un effondrement de beaucoup, beaucoup de toutes petites entreprises, des entreprises dans le bâtiment et dans la construction, qui sont souvent, on va dire, le réseau vital de l'économie des territoires. Donc le logement, c'est une énorme pénurie de logements ensuite pour les personnes. Et évidemment que la précarité vient aujourd'hui d'abord du coût du logement ou de l'absence de solutions de logement, et ensuite un certain nombre de conséquences très très graves dans le tissu économique, et notamment le tissu économique autour de, on va dire, l'ensemble de la construction. Vous connaissez l'adage, hein, quand le bâtiment va, tout va.
Eh oui.
Quand le bâtiment va pas, rien ne va. Je crois que vraiment on est aujourd'hui au cœur de cette crise.
Véronique Rissoult, vous nous en parlez, mais très souvent, de ce sujet logement qui est extrêmement présent. On comprend aussi, avec ce que dit Philippe Dessertine, que c'est non seulement les gens qui cherchent un logement, mais c'est toute une économie, et dans les territoires notamment.
C'est un sujet d'inquiétude très important sur le pouvoir d'achat. Je vous en ai souvent parlé parce que c'est un sujet de conversation constant. C'est le premier poste des foyers, que ce soit en location ou que ce soit à l'achat. C'est la première dépense, au point où, quand on regarde les messages depuis quelques temps, et particulièrement ces dernières semaines, certains vont jusqu'à dire qu'on compare cette crise à celle de la Seconde Guerre mondiale en disant on est quasiment dans cet état là, tellement c'est grave, on n'a jamais été dans une telle situation, que ce soit du côté des investisseurs où eux disent finalement c'est un marché qui n'a plus d'attrait, ou du côté des particuliers avec une réalité de demande très forte pour les primo-accédants, bien sûr, mais pour les jeunes. Et puis, globalement, les taux zéro, ils demandent beaucoup plus d'aide et de soutien des banques en disant que c'est très difficile d'avoir des prêts. Donc, on a beau dire que les banques font des efforts, les Français le ressentent pas comme ça. Et puis ensuite, on voit bien que ils ont l'impression que c'est finalement une crise structurelle, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils le demandent. C'était d'ailleurs pour ça, rappelez-vous, quand il y avait eu le remaniement et que le ministre du logement n'était pas nommé pendant un mois.
Absolument, j'allais y venir, oui.
Et que les Français le réclamaient. C'était le seul ministère où ils ne comprenaient pas qu'il ne fasse pas partie de la première salve. Eh bien, on voit bien que cette inquiétude, elle monte, elle est grandissante. C'est un sujet de conversation, en fait, larvé, inquiétant. Et on aurait pu se dire même que les annonces qui ont été faites ce matin par Madame Bedag auraient été pas mal commenté, parce qu'on a une réalité de perte d'emploi. Alors, hormis un petit sujet qui est qu'elle a expliqué que les collaborateurs étaient une variable d'ajustement. Bon, ça, c'est pas trop passé. C'était un peu commenté. Mais le reste, en fait, non, parce que cette situation de Next City, c'est pas tellement ça qui préoccupe les Français. Ils se disent, les acteurs peuvent changer, les choses peuvent évoluer. Le vrai sujet, c'est que eux, dans leur quotidien, ils sont énormément impacté, les loyers augmentent, ils ont de plus en plus de mal à se loger, les jeunes doivent rester chez leurs parents, les jeunes couples ne peuvent pas s'installer, enfin bref, je vais pas lister tous les problèmes qu'ils rencontrent.
Question rapide, parce que je sais que vous devez filer, Philippe de Sertine, deux choses. D'abord, la crise concerne aussi le prix des locations, forcément c'est lié.
Forcément, c'est lié. Forcément. Et c'est ça qui est terrible, évidemment, dans la problématique logement, c'est que vous allez avoir, je dirais, un problème de pénurie, qui va faire que, en effet, les prix restent élevés, les investisseurs sont peu nombreux, et d'où, évidemment, des loyers aussi qui augmentent. Rappelons-le, nous avons l'augmentation des taux qui provient de l'inflation. Et peut-être encore, là, vous voyez, il faut relier tous les sujets entre eux. L'augmentation des taux, je dirais, qui est la réponse à l'inflation, c'est empêcher de créer de la dette, parce que la dette est inflationniste. Et donc là, on retrouve vraiment toutes les problématiques autour du logement, une espèce de cercle vicieux. On ne voit pas comment en sortir. Et quand on évoque les mesures possibles qui ont été suggérées tout à l'heure par la présidente de Next City, les mesures, ce sont des mesures gouvernementales, des mesures d'allègement fiscal, mais l'État est en déficit énorme et n'a aucune faculté justement pour essayer de récupérer du financement du point de vue de sa fiscalité. Mmh. Et pour conclure le tout, en plus, cette fiscalité en partie, elle permet de financer les collectivités locales qui sont elles aussi en situation très très tendue du point de vue de leurs finances. Partout où on se tourne, compliqué.
Juste pour terminer, quand le gouvernement dit qu'il attend une baisse des taux qui favoriserait les ventes, est-ce qu'elle se profile ?
Alors, jusqu'à au début de semaine, je dirais tous mes collègues, vous auriez dit oui, non, ça va arriver en juin. Et puis cette semaine, on a eu des mauvaises alertes. Les taux qui commençaient à baisser vraiment début de semaine, c'est pour ça, vous voyez, que c'est difficile à se projeter, ont recommencé à se tendre en fin de semaine. Pourquoi ? Parce que l'inflation s'avère beaucoup plus forte que prévu, notamment aux États-Unis. Donc l'inflation remontant, non seulement on craint que la Banque centrale américaine ne baisse pas les taux comme on le pensait, mais même certains opérateurs de marché commencent à se demander s'il ne va pas continuer à augmenter ses taux au mois de juin. Et auquel cas, alors là, toutes les prévisions optimistes dans lesquelles on était, y compris sur l'immobilier, évidemment, ces prévisions-là risqueraient de devenir caduques. Donc, en réalité, l'inflation au niveau mondial qui va être l'élément central, et l'inflation au niveau mondial, on le voit bien au quotidien, elle est fonction de plein d'événements et pas simplement d'événements économiques. Il suffit évidemment d'une tension géopolitique pour que les prix, par exemple, de l'énergie remontent.
Merci beaucoup Philippe de Sertine, directeur de l'Institut de Haute Finance, et vous enseignez aussi la finance à l'IAE, à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir d'Adrien Brachet, service politique de Marianne Alexandra, Saviana, journaliste au service Société de l'Express, et Véronique Ressout, présidente de Backbone Consulting. On parle de la construction du logement. C'est vrai que ces histoires de taux d'intérêt ont des impacts immédiat sur nous, vous, tout le monde, sur le commun des mortels, et c'est quand même le cœur du sujet, Alexandra Saviana.
Oui, en fait, ils illustrent assez bien pourquoi on comprend l'hésitation des Français à acheter, à contracter des prêts. Je regardais les chiffres, des études qui montraient cet après-midi que pour devenir propriétaire, aujourd'hui, quand on acquiert une maison, pour rentabiliser cet achat, il faut attendre 15 ans. Pour comparer, il y a 10 ans, il fallait seulement attendre 4 ans. Donc forcément, les gens font le contrebalancier, locataire, propriétaire, et choisissent locataire, souvent. C'est moins onéreux. Mais le problème, c'est que cette situation n'a pas de solution, parce que si on regarde les études de la Fondation l'Abbé Pierre, par exemple, on se retrouve avec 4,2 millions de mal logés en France aujourd'hui. Donc il y a un vrai problème de construction de logements neufs et de réhabilitation du logement ancien. L'année dernière, c'était seulement 4,1 millions de personnes. Et ça, c'est sans compter tout le halo des gens qui sont mal logés moins bien logés, où on est à 8,1 millions de Français. Donc, on est face à une crise de l'immobilier, on est face à une crise du logement, et on est face aussi à une crise économique que soulignait Philippe de Sertine tout à l'heure, avec un tissu industriel et du BTP qui est en train de souffrir très fort. Ça fait depuis l'année dernière qu'il tire la sonnette d'alarme, et aujourd'hui, on en voit le résultat.
Est-ce qu'il y a une défaillance politique, Adrien Brachet ? J'entends par là, quand Véronique Rissou tout à l'heure parlait, effectivement, au moment du remaniement, qu'il manquait, parmi les quelques ministères, celui du logement.
C'est vrai qu'il y a eu cet épisode qui a marqué, quand même.
Un retard à percevoir la gravité de la crise.
Oui, alors il y a deux choses. En effet, il y a eu, on pourrait dire que c'est anecdotique, mais c'est quand même un symbole, ce temps qu'il a fallu pour qu'on finisse par nommer un ministre du logement au moment
ça
du remaniement.
C'est quelque chose qui n'est pas une priorité.
Ça donne cette impression, une impression d'improvisation ou de sujet relégué au second plan. Et la deuxième difficulté, je dirais, c'est que le gouvernement tend à avoir une approche très paramétrique du sujet en disant on va agir sur l'accès au prêt à taux zéro, sur la construction, mais a tendance à insuffisamment aborder le sujet dans sa globalité et notamment la question de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que la question du logement, c'est aussi le fait que vous avez une très forte inégalité entre l'attractivité des zones. Vous avez des zones où vous avez énormément de demandes, des prix très élevés, et à côté, vous avez toute une série de, par exemple, de centres-villes, de petites villes ou de villes moyennes, où vous avez des logements vacants. Et donc, tout cela demande une réflexion globale pour relocaliser l'activité économique dans des plus petites villes, dans des plus petits territoires, pour réindustrialiser certains endroits. Et donc, on ne peut pas avoir une approche du logement seulement focalisée sur l'accès au logement. Si vous voulez, ce doit être mis dans une politique économique beaucoup plus globale, et c'est peut-être ça qui manque aux yeux des Français aujourd'hui.
Cet aspect territoire, Véronique Rissou, j'imagine que ça, vous le percevez.
Oui, on le perçoit parce que les uns les autres comparent, essayent de savoir quels sont les meilleurs plans, comment est-ce qu'on peut faire. On voit que évidemment, les gens sont obligés d'habiter de plus en plus loin de leur lieu de travail parce que, voilà, les loyers sont moins élevés, et vous avez en plus une nouveauté un phénomène grandissant qui sont les familles monoparentales, qui ne font que complexifier aussi ce sujet-là, parce que ça fait deux familles tout d'un coup qui ont besoin de se loger, mais de se loger pas loin. Donc si l'un des deux part un peu plus loin parce que c'est moins cher, c'est pas forcément le cas du premier. Donc on voit bien que effectivement c'est un sujet non seulement économique de façon globale, mais sociétal aussi de façon globale. Donc on ne peut pas juste prendre le sujet par un tout petit bout.
Ouais. Il y avait un aspect intéressant que soulignait Véronique Bédac, qu'on entendait tout à l'heure, c'est les efforts réalisés par les banques, dit-elle, pour soutenir les primo-accédants. Moi, je n'avais pas forcément ça en tête.
Ben,
vous avez l'air de tiquer, d'ailleurs.
Oui, parce que quand on regarde les témoignages des uns et des autres, c'est pas... Alors, c'est peut-être la différence entre le ressenti et le réel que pour la météo, j'en sais
vous
rien.
Mais ça,
en tout cas, il y a beaucoup de témoignages de gens qui sont désespérés en disant, c'est ma cinquième banque, on m'a encore refusé, on m'avait promis que, soi-disant, il y a une aide.
Bon,
il y a beaucoup de gens qui
l'ont, leur prêt, ils le signalent peut-être pas.
Si, généralement, on a droit à champagne, youpi, ça y est, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a plus de gens qui racontent des histoires où c'est difficile et ils n'arrivent pas à avoir ces fameux prêts.
C'est un enjeu, ça, Alexandra, ça vient les primo-accédants.
Oui, et à noter pourtant que l'âge des primo-accédants a reculé. Ils ont rajeuni depuis 10 ans. C'est-à-dire, c'est contre-intuitif, mais au début des années 2000-2010, on accédait à la propriété à 36-38 ans. Et aujourd'hui, c'est mieux, quelque part, parce qu'on y accède à 32-35 ans. Et ça s'est stabilisé. Ça, c'est notamment dû au fait qu'il y avait eu des taux extrêmement bas, notamment grâce aux banques en ligne, qui aujourd'hui ne se pratiquent plus. Donc, à voir si cette moyenne de 32-35 ans va bouger à l'avenir ou pas.
Adrien,
oui, ce qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est que cette question de l'accès à la propriété, c'est quelque chose qui unit quasiment les Français, en tout cas dans leurs rêves et dans les aspirations. L'an dernier, il y a eu une enquête très intéressante de la Fondation Jean Jaurès, et qui montrait que pour 88% des Français, donc près de 9 Français sur 10, l'idéal c'était d'accéder à la propriété. Donc, contrairement à tout ce qu'on peut dire, ça reste une aspiration très forte, et c'est pour ça que ce sujet, politiquement, touche autant les gens.
Prêt à taux zéro, c'est ce qu'elle souligne aussi, c'est que c'est aussi via ce soutien-là que les banques, vous avez l'air de tiquer encore une fois, mais il pèse encore beaucoup le prêt à taux zéro, quelqu'un n'est pas obligé
les conditions d'accès sont quand même assez compliquées, elles ne s'adressent pas à tout le monde.
Ouais.
Donc est-ce que ça se fait vraiment? Je ne sais pas, en tout cas les témoignages n'ont pas l'air de dire ça, mais par contre les conditions, elles sont pas pour tous les Français, loin de là.
Allez, on va refermer cette page sur la construction et le logement dans un instant, juste après le fil info de Stéphane Milhomme. On s'intéressera à la GPA, avec une semaine marquée par une polémique qu'on va redérouler et je vous disais, quelque chose qui ressemble quand même vraiment à une fake news au Parlement européen.